بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi, le 15 du mois Dhul Qa'da, ou Dhul Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 2 mai 2026. Donc nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer ensemble notre étude du livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Et comme vous savez, même si on arrive à la fin de ce livre qui est composé de 67 chapitres, on arrive aujourd'hui au 61e chapitre. Lakin, il est toujours utile de rappeler l'importance de Tawhid, l'importance de la science d'une manière générale. Et la science la plus importante, c'est la science qui te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître ses droits et tes devoirs vis-à-vis de lui. Cette science, c'est la science de Tawhid. Il n'y a pas une science qui est plus méritoire que cette science. D'où son importance et son étude est une obligation pour tous les muslimines. Car la science, c'est la clé de tout bien. Et c'est le moyen de se préserver, de tomber dans son opposé, qui est le péché le plus grave et le crime le plus abominable, ash-shirku billah, le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Comme il a dit, « Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. » Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Il pardonne tout ce qui est en dehors de ça à qui il veut. Allah ne pardonne jamais ce péché pendant, yani après la mort de la personne. Amma, pendant le vivant de la personne, quel que soit son péché, même si c'est la mécréance, même si, si c'est le fait d'insulter Allah, même si c'est le rejet de la religion de l'islam, même si c'est l'apostasie, quel que soit le péché, du moment que la personne revient vers Allah, Allah l'accueille avec une grande et une immense joie et lui pardonne. Et même il transforme ses péchés en des bonnes actions. Allah aime ceux qui se repentent et qui reviennent vers lui. Lakin, le malheur, tout le malheur pour celui qui meurt sur shirk. Celui qui meurt sur shirk, celui-là sera éternisé en enfer. Subhanallah. Malgré que cette parole, je dois la répéter assez souvent dans ma vie, mais à chaque fois que je la répète, je suis choqué. Je suis sous le choc. Il restera éternellement en enfer. C'est pas un million, ni un milliard, ni un milliard de milliards d'années. C'est l'éternité, c'est-à-dire sans fin. Wallahi, s'il n'y avait que ça, ça aurait suffi pour réaliser la gravité de ce péché. Comparé aux autres péchés. Et ça nous laisse voir la négligence de la plupart des muslimines sur terre aujourd'hui. Ils négligent cette science. Ils ne l'apprennent pas. Illa man rahim Allah. Sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Et c'est ce qui explique justement la situation de notre communauté. Yani, notre éloignement de notre religion. Est-ce que vous rendez compte, Yahikhwa? C'est l'éloignement de la base des bases, du fondement des fondements, de la chose la plus importante. Alors que dire du reste? Et après, tu trouves des gens qui n'étudient pas Tawhid et peut-être qui ne connaissent même pas Shirk, et après, ils ne boivent pas coca. Ils se vantent de cela. Comme s'il a fait l'action qui fait rentrer directement au paradis. Pour voir comment Shaitan il peut jouer de certaines personnes à cause de leur ignorance. Donc ça devient un point sur lequel il y a une alliance et un désaveu. Celui qui ne boit pas coca, c'est le musulman qui a la foi complète. Et celui qui la boit, c'est un musulman faible qui participe dans le massacre des Palestiniens. Au point où certains ignorants ont dit, à chaque fois tu bois une canette de coca, comme si tu as tué un Palestinien. Et par contre, apprendre tawhid et apprendre shirk, afin de ne pas tomber dedans, ça c'est pas grave. L'annal muslim, l'être humain d'une manière générale, Allah l'a créé d'une manière, il a besoin d'avoir des principes et des convictions dans sa vie pour arriver à une certaine sérénité et quiétude. Sinon, il est toujours troublé et perturbé. Et donc, si ce n'est pas les bonnes valeurs auxquelles il va adhérer, il va adhérer à des choses qui ne font même pas partie de la religion, comme celui que je viens de vous citer, ou des choses qui font partie de la religion, mais qui sont secondaires par rapport à d'autres choses. Comme le fait, en France, j'entendais souvent ça, le fait de ne pas manger du porc. Le fait de ne pas manger du porc. Manger du porc, c'est un interdit. C'est un grand péché. Naam. Lakin, il y a des gens comme ça et qui délaissent la salade. Qu'est-ce qui est plus grave, de manger du porc ou là de délaisser la salade? Et en réalité, ce n'est pas une religion chez ces gens-là, c'est juste des traditions et des coutumes. Et si c'est religieux, tu vas prendre les mêmes critères pour Allah. Quel est le degré de gravité de l'abandon de salade et quel est le degré de gravité de manger du porc ou là de commettre n'importe quel grand péché pour Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas voir qu'il y a un écart immense. Abandonner la salade, la plupart des savants disent que c'est même pas un musulman, celui qui ne fait pas la salade. Car il a coupé tout lien entre lui et son créateur. Un musulman qui mange du porc, tout en reconnaissant que c'est un péché, ça reste un péché. Il reste un musulman. Donc, il faut qu'on comprenne ces choses-là, et qu'on comprenne surtout que notre religion, Yahikhwa, ce n'est pas une religion de tradition ni de coutume. C'est une religion de science. Tu dois apprendre ta religion. Le Nabi, il n'y a pas une adoration dans laquelle il n'a pas dit quelque chose de ce genre. Par rapport à Tawhid, par rapport à Salat, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Faites la Salat comme vous m'avez vu faire la Salat. Il n'a pas dit « Faites la salade comme vous avez vu vos parents faire la salade. » Ou la cité marocaine « Fait la salade comme les Marocains font la salade. » Ou la cité algérienne, ou la cité tunisienne. Ou la... C'est pas comme ça. Tu dois faire salade comme le Nabi Hassan l'a fait. Et comme il l'a fait, ça nous a été transmis et rapporté par les compagnons dans les détails que vous pouvez même pas imaginer. La direction de ses orteils, ses doigts, comment ils sont dans le tekbir, ses mains, toute chose est rapportée. Il suffit d'apprendre. Il a dit, ça c'est ma... après avoir fait les ablutions, il a dit, ça c'est mes ablutions. Et les ablutions des prophètes qui m'ont précédé. Donc, il nous a enseigné les ablutions. Il faut qu'on fasse les ablutions comme le Nabi a fait. Et par rapport au pèlerinage, il a dit, « Khudhu anni manasikakum » Prenez de moi vos rites, les rites du pèlerinage. Et dans toute la religion, c'est comme ça. D'ailleurs, pourquoi tu dis, pour quelqu'un qui veut devenir musulman, pourquoi on lui dit, dis ashhadu an la ilaha illallah. Et ensuite, on lui dit, dis ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. S'il comprend ces deux attestations de foi, il n'y aura pas besoin de dire tout ce que j'ai dit pour l'instant. S'il comprend ces deux attestations de foi avec lesquelles on entre en islam, il n'aura pas besoin de tout ce qui a été dit maintenant. Car s'il comprend la première attestation, il saura que la seule vraie divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et que toutes ces adorations doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute adoration vouée à autre qu'Allah, quel que soit son statut, quel que soit son degré, quelle que soit son estime, c'est quelque chose qui s'oppose à la ilaha illallah. Ça s'oppose radicalement à la ilaha illallah. Ça l'annule. Totalement. Et pourquoi il dit « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » Il adore Allah seulement avec ce qu'il a révélé et ce que son messager a enseigné. C'est ça ce qui te rapproche d'Allah. Ce que tu fais sincèrement pour lui, et ce que tu fais également en conformité à la tradition de son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'islam en résumé. Donc, par rapport à ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, dit « Babu ma ja'a fil musawwirin ». Donc, ce qui a été rapporté au sujet des façonneurs d'images. Et donc, l'auteur n'insinue pas ici, par ce titre, qu'il y a une divergence au sujet de ce jugement. Mais il a voulu que l'étudiant, celui qui apprend à travers ce chapitre, qu'il fasse les efforts pour arriver au jugement par lui-même à partir des textes, car le jugement, il est extrêmement clair et explicite. Et ce qui est voulu par ce chapitre, c'est de nous montrer quel est le jugement de façonner des images et quel est le jugement de ceux qui façonnent des images. Et la menace à laquelle ils s'exposent, car cet acte fait partie des grands péchés en islam. Des grands péchés qui diminuent l'unicité d'Allah. Et on va voir pourquoi ça diminue l'unicité d'Allah dans le cœur du serviteur. Lakin, ça n'annule pas l'unicité d'Allah. Et qui expose celui qui l'a fait à la colère d'Allah et à son châtiment, et qui diminue par conséquent sa foi. Et dans ce chapitre, nous allons comprendre la raison pour laquelle le façonnage d'images est interdit en islam. Et qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est ce qui est mentionné dans le hadith. Mudahatu khalqillah. C'est de défier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et de créer comme ce que Allah crée. De créer comme ce que Allah crée. Et les choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vu de cette manière, cet acte interdit en islam diminue l'unicité de la seigneurie, qui consiste à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans tous ses actes qui sont spécifiques à lui. Allah, il est l'unique créateur. Allah, il est l'unique pourvoyeur. Allah, il est l'unique gestionnaire et administrateur de toute sa création. Ça, c'est la première raison pour laquelle cet acte est interdit en islam. La deuxième raison, c'est que le façonnage d'images est un moyen pour shirk, est un moyen de l'associationnisme. Et nous allons voir, ou là je vais le dire dès maintenant comme ça en résumé, par rapport à ce point, comme on l'a souvent cité dans ces cours de Tawhid, Anna, la cause du premier shirk, vous savez que depuis la descente de Adam du paradis sur terre, jusqu'à l'époque de Nuh, alayhi salam, il y a eu 10 siècles, 1000 ans. Entre Adam et Nuh, 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, il n'y a pas eu une seule forme de shirk. Il y avait des grands péchés. Là qu'il n'y avait pas de shirk. Tous étaient des monothéistes. Il y a eu le meurtre. Il y a eu autre chose, là qu'il n'y a pas eu de shirk. C'est tous des monothéistes pendant 10 siècles. Et la première fois que shirk est apparu sur terre, il est apparu à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et c'est pour ça que Allah azza wa jalla a envoyé Nuh pour la première fois sur terre. Nuh, alayhi salam, c'est le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre. C'est le premier messager. Et ça nous indique la gravité de shirk. Quand shirk a eu lieu, Allah a immédiatement envoyé un messager pour la première fois. Et Nuh a passé 950 ans, 1000 ans, excepté 50 ans, il a passé ces 1000 ans, sauf 50, à appeler son peuple à revenir vers l'unicité d'Allah. Presque 1000 ans. Un messager, un des meilleurs messagers qu'Allah a créé, un des 5 meilleurs messagers qu'Allah a créé. Il a passé presque 1000 ans à les appeler à abandonner le shirk. Est-ce que le shirk s'est arrêté pour autant? La réponse, non. Il ne s'est plus jamais arrêté, il ne s'arrêtera plus jamais jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça, repousser le shirk, c'est plus facile que, avant qu'il n'arrive, faire les causes pour s'en écarter, s'en éloigner. Avant que tu tombes dedans, est plus facile que de le repousser une fois tombé dedans. Et donc la cause de cette première forme de shirk, c'est quoi? C'est le façonnage d'image. La cause de la première forme, d'associationnisme, c'est quoi sur Terre? C'est les images et les photos et les statues. Les statues rentrent dans les images et dans les photos. Sora englobe tout ça. Englobe quelque chose ayant un corps avec une ombre. Comme ça, les savants expriment, ils disent quelque chose qui a une ombre. Yani, quelque chose de physique. Et aussi rentre dans Sora ce qui est façonné sur une surface, un tissu, un papier. Tout ça rentre dans Sora en arabe. Donc, que ce soit des statues ou des photos, tout ça rentre dans Sora en langue arabe. Lakin, comme vous savez, la cause de cette première forme de shirk, c'était ces images qu'ils ont façonnées et qu'ils ont façonnées pour une bonne raison, car c'était autorisé dans leur législation. Et ils les ont fait pour une bonne raison, pour leur rappeler ces hommes vertueux afin de se rappeler le bien auquel ils les appelaient avant leur décès. Lakin Shaitan a attendu quelques générations et la diminution de la science et l'apparition de l'Jahl, et il les a invités à les adorer. Et ils les ont adorés. Donc, comme ça, vous comprenez pourquoi l'auteur, en parlant de Tawhid, il ramène un sujet qui a un lien avec la jurisprudence, avec le halal et le haram. Naam. Lakin, il a un lien également avec l'unicité d'Allah. On a vu que c'est en lien avec des actes spécifiques à Allah, donc ça revient à l'unicité de la Seigneurie. Et c'est en lien avec un moyen de shirk dans l'adoration. Donc ça revient à l'unicité de l'adoration. Ça revient aux deux. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimallah, a rapporté 5 ahadiths. Le premier, c'est celui de Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans lequel il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. Donc en premier il a cité ce hadith rapporté par Abu Hurayra رضي الله عنه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, Allah le très haut a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un hadith Qudsi. Est-ce que tu peux les laisser parler de temps en temps? Participer?
Bien sûr.
Aïwa. Donc, comment on appelle le hadith que, vous savez, nous avons le Coran et nous avons le hadith du prophète. Et dans le hadith du prophète, nous avons des hadiths qui commencent par le prophète, il dit, Allah a dit. Comment on appelle ces hadiths?
C'est les hadiths Qudsi, je crois.
Comment ils disent en français? Hadith. C'est pas grave, Yann. Que tu ignores comment ils disent en français, c'est pas grave du tout. Lakin, de savoir comment ils disent en arabe, c'est ça. c'est ce qui compte. Lakin, en français, là, des fois, on a besoin d'expliquer aux autres. J'ai appris ça. Mahna kangulu hadith Qudsi. Ou hadithun ilahi. Divin. Ça, en français, ils disent un hadith divin. Taïb. Donc, le prophète sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَنْ أَظْلَمُ qui est plus injuste que celui qui tente de créer comme je crée. Qu'il crée alors une toute petite fourmi, ou qu'il crée un grain, ou qu'il crée un grain d'orge. Ou qu'il crée un grain d'orge. Rapporté dans les deux authentiques. L'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam muslim. Donc, le prophète alayhi salam sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc c'est un hadith divin. Il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ. Qui est plus injuste? Ça c'est une question. Laquelle en arabe, il y a des questions où ce qui est voulu, c'est pas le questionnement. Car quand on pose une question, on attend une réponse. Allah, il n'attend pas de nous la réponse. Ça c'est un style où on pose une question afin de blâmer celui qui commet cet acte. Elle est comme les parents, ils disent à l'enfant quand il fait une bêtise, ils disent, pourquoi t'as fait ça? Ils ne veulent pas écouter des explications. Là, qu'il le blâme. Yani, c'est un mal, yani, il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Taïb. Donc, ce qui est voulu, c'est le blâme. Et le sens, il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui a fait cela. Il n'y a personne qui est plus injuste. Donc, ici, on va s'arrêter sur la compréhension de cette phrase. Il n'y a personne qui est plus injuste. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est la plus grande injustice qui existe d'une manière absolue? Non. C'est une certitude que ce n'est pas ça le sens qui est voulu. Car nous savons qu'il y a des injustices plus grandes que celle-là. Shirk. Inna shirk ala dhulmun azim. Là, qu'est-ce qui est voulu? C'est un des deux. Un de deux. Le premier sens, qui est plus injuste? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est plus injuste dans cette catégorie d'actes. Dans cette catégorie d'actes. Qui est de façonner des images. Il n'y a pas plus injuste que celui qui les façonne avec l'intention de créer comme Allah y crée et de défier Allah dans sa création. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, il n'y a personne qui est plus injuste, mais ça ne veut pas dire que c'est limité à cette catégorie, car cette expression est utilisée dans beaucoup d'autres péchés. Ça veut dire que tous, ils arrivent au degré le plus élevé de l'injustice concernant les grands péchés. Car l'injustice, ça peut être shirk, ça peut être les grands péchés, ça peut être les petits péchés. Tout ça, c'est des injustices. Lakin a des degrés différents. Donc, dans le cadre de l'injustice qui relève du grand péché, tous ceux qui ont été décrits ainsi arrivent au summum de cette injustice. Ceux qui façonnent des images, ceux qui disent, qui parlent d'Allah sans science, ceux qui empêchent les croyants de faire la salade dans la mosquée, tout ça, ça a été mentionné. Par exemple, dans le Coran, Allah dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Qui est plus injuste que celui qui a empêché les croyants d'évoquer leur Seigneur dans les mosquées. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est par rapport à cette première partie. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est plus injuste que celui qui crée comme Allah, il crée. Comme Allah, il crée. Car celui qui façonne des images qui sont créées par Allah à la base, comme des hommes, comme des animaux, c'est Allah qui crée les hommes. Il est le seul à le faire. Et c'est Allah qui crée les animaux. Il est le seul à le faire. Et en plus, ce sont des créations ayant une âme qui indiquent d'une manière plus forte l'omnipotence et la grandeur et la majesté de leur créateur. Yani, l'intelligence de celui qui a créé un smartphone, c'est pas comme l'intelligence de celui, et c'est pas le même degré de savoir et de maîtrise, et tu peux dire tout ce que tu veux, que celui qui a créé avec Abou Keshaf, le petit Nokia ou là, l'ancien ou là, donc les téléphones avant, allez, ils étaient de la taille de, du bras ou là. Yani, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus sophistiqué. C'est pour ça que toute créature indique son créateur. Et à travers les créatures ayant une âme, yani, ça indique d'une manière encore plus forte l'omnipotence et la grandeur. Et le savoir, yani, l'omnipotence et l'omniscience et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses créations. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Qu'il crée alors une toute petite fourmi. الذرة, c'est la toute petite fourmi. Yani, qu'il crée la plus petite chose qu'il connaisse, la plus petite chose qu'il connaisse ayant une âme. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple d'une créature extrêmement petite ayant une âme. Est-ce que ça, c'est un ordre qu'il aurait donné? Le sens apparent, c'est un ordre, mais ce n'est pas ce qui est voulu. C'est pour ça, dans la langue arabe, nous avons la science de la rhétorique. Al-balagh. Yani, pas toujours le sens apparent est voulu. L'éloquence arabe est basée sur la, yani, le fait que ce soit le plus concis possible. Un arabe éloquent, quand il parle, il va utiliser le minimum de termes possibles. Il va, yani, c'est pour ça que quand tu lis dans le tafsir du Coran, le mufassir, il va te citer des mots qui ne sont pas mentionnés dans le verset. Il va te dire, il y a ce mot ici. Lakin, tout ça, c'est sous-entendu. Un arabe ne va pas s'encombrer à citer des choses que les gens normaux comprennent. Lakin, on a un arabe dans l'éloquence, et ça reste un style éloquent. Un arabe dans l'éloquence est élevé quand il détaille, c'est pour une raison. Par exemple, pour insinuer que son interlocuteur est bête. Il ne comprend pas facilement. C'est pour ça qu'il va lui détailler. Mais sinon, il n'y a pas ça. La règle de base, c'est pour ça qu'ils disent l'éloquence, c'est d'être concis. C'est le fait d'être concis. Et c'est pour ça, si vous revenez aux paroles du prophète, c'est au summum de l'éloquence. Yani, Nabi Assam, il dit, ad-dinu nasiha. Si tu veux expliquer ça, tu as besoin de plusieurs ouvrages. Il dit, a'tu at-tariqa haqqa. Ça, c'est tout le code de la route et tout ce que tu veux. Les règles, quand tu t'assois à l'extérieur, quand tu vas dans un parc, quand... tout est dedans. A'tu at-tariqa haqqa. Donnez. Allez, comment je traduis ça? Achnawa at-tariq, le chemin ou la... Yani, de donner au chemin son droit. Son droit, c'est que tu baisses le regard, c'est que tu respectes les priorités, c'est que tu laisses passer les gens qui doivent passer en premier, et ainsi de suite. Tout ça rentre dans... Tayyib. Allah Azza wa Jalla dit, فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً. Qu'il crée une toute petite fourmi. Et ça, ce n'est pas un ordre en réalité, c'est pour montrer leur... C'est un défi. Et pour montrer leur incapacité et leur impuissance. Ils ne peuvent pas créer une chose dans laquelle il y a une vie. Et ça, les hommes n'arriveront jamais à le faire jusqu'à la fin des temps. Ne croyez pas qu'il viendra un jour, ils vont créer une chose dans laquelle il y a une âme. Il y a une vie. Ça, c'est impossible. Et je le dis, et je sais de quoi je parle. Impossible que les humains quelle que soit leur avancée technologique, ils n'arriveront jamais à créer une chose dans laquelle il y a une forme de vie. Et ils rêvent de ça. Ils rêvent de créer un jour, ils disent, même la toute petite cellule, alors qu'ils se trompaient avant, ils croyaient que la toute petite cellule, elle contient un gène ou là. Alors que scientifiquement, c'est démontré que le minimum, c'est 300 et quelques. Plus de 300, sinon elle ne tient pas. Une seconde. Ça, c'est la cellule la plus simple, la plus basique. Alors que dire quand tu rentres dans une cellule, dans le corps de l'être humain? Là, tu es dans l'usine la plus sophistiquée du monde et ça ne lui arrive même pas à la cheville. Une cellule. Alors que dans ton corps, il y a des milliards de cellules. Une cellule, c'est beaucoup plus développé que l'usine la plus sophistiquée qu'il y a sur Terre. Et tout ce qui se passe dans une cellule, c'est pour ça que je vous invite vivement à visionner des vidéos dans lesquelles des scientifiques parlent du fonctionnement de certains organes dans le corps. C'est très très intéressant. Par exemple, ce qui a rendu fou Darwin, l'œil. Même Darwin, il dit, l'œil, c'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Lui, il croit au hasard. Et la mutation aléatoire, Hachi, là, il dit, non, l'œil, c'est pas possible. Taïf, c'est pas possible, alors. Crois en ton Dieu, reviens à ta foi. Là, wallo. C'est l'orgueil. Ça devient sa personne, sa théorie. Il doit la défendre jusqu'à la fin de sa vie. C'est plus une question de science ou une théorie scientifique. Déjà, c'est un mythe, Ada. Ala kulli hal. Falyakhluqu dharra. Qu'il crée une toute petite fourmi. Aw liyakhluqu habba. Alors, s'ils sont incapables, bien évidemment, on dit qu'ils ne sont pas capables de créer une chose dans laquelle il y a une forme de vie. Ils ne sont même pas capables de créer un grain de poussière. Et ils ne pourront jamais le créer jusqu'à la fin des temps. Un bout de bois, un objet inerte. Comprenez ce que ça veut dire la création. La création comme Allah crée, c'est-à-dire à partir du néant, à partir de rien. Ça n'existe pas. Impossible. Tout ce que l'homme sait faire, c'est la transformation de matière première qu'Allah lui a mis à sa disposition. Il les transforme pour avoir de nouvelles formes ou de nouveaux objets. C'est pour ça qu'Allah leur dit, alors qu'il crée une toute petite fourmi, ou qu'il crée un grain, ou un grain d'orge. Et ça, c'est un défi. Et ce qui est voulu par ce hadith, c'est qu'ils seront châtiés longtemps dans le feu de l'enfer à cause de cela. Car ils ne pourront pas faire ces choses-là qui leur ont été demandées, afin de s'en sortir du châtiment d'Allah. Ça veut dire qu'ils seront châtiés longtemps dans le feu de l'enfer. Maintenant, on va parler des catégories de ce qu'on appelle sourah en arabe. Premièrement, ce qui rentre dans sourah, c'est toute image ayant une ombre. Un objet qui a une forme, comme une statuette, et ainsi de suite. Ça, c'est, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là que ça rentre dans la sourah. C'est pour ça qu'il est strictement interdit d'avoir des statues de créatures ayant une vie à la maison. Ça empêche les anges de rentrer dans la maison. Et si les anges ne rentrent pas dans la maison, et bien évidemment, vous savez, on parle des anges de la miséricorde. Amma l'ange qui est chargé de toi, qui est responsable de toi, qui écrit tes hasanats et tes sayyat, et les deux anges gardiens, ceux-là, ils sont avec toi en permanence partout que tu sois. Là, on parle des anges de la miséricorde, qui s'invitent quand il y a la lecture du Coran, quand on parle de religion, quand on parle du bien qu'ils aiment. Hadou, ils ne rentrent jamais dans ta maison quand il y a une statue. Et si les anges ne rentrent pas, c'est qui va s'inviter? Il restera, il n'y a pas de vide. Si ce n'est pas occupé par les bonnes personnes, ça sera occupé par les mauvaises personnes. Ash-shayatin. C'est pour ça que vous trouvez que dans beaucoup de familles, il y a énormément de problèmes. Les enfants sont désobéissants. Les enfants n'apprennent pas. Les enfants ne veulent pas lire le Coran. Le mari, il a des problèmes avec son épouse. L'épouse a des problèmes avec son mari. Et après, c'est pas étonnant. Si la maison remplit shayatin, tu crois qu'ils vont essayer de les réconcilier? Ah, ça, c'est parmi ce qui explique les problèmes dans les familles. Contrairement aux familles qui respectent la législation d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Lakin, ils arrivent toujours à trouver les solutions, toujours en revenant à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, ça c'est la première chose qui rentre dans As-Sura. La deuxième chose, c'est ce que l'homme façonne avec des crayons ou avec une coloration, mais sur une surface et non pas sur un plan tridimensionnel. Yani, ça n'a pas une forme, mais c'est sur une surface. Ça aussi, ça s'appelle une sourah. Et parmi ce qui indique que ça s'appelle une sourah et ça rentre dans l'interdiction, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour n'est pas rentré chez lui, alors qu'il devait rentrer chez lui. Et Aïcha radiallahu anha s'est posé la question. Elle a dit pourquoi le Nabi n'est pas rentré à la maison. Et par la suite, il est venu. Elle lui a dit au messager d'Allah, est-ce que j'ai fait un péché? Il lui a dit, Inna ashab hadhihi as-suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Il lui a dit, ceux qui façonnent ces images seront châtiés le jour de la résurrection. On leur dira, donnez vie à ce que vous avez créé. Donnez vie à ce que vous avez créé. Et ça, c'est la même chose. Yani, c'est une chose qu'ils ne pourront pas faire. Ça veut dire que leur châtiment va durer longtemps. Dans le feu de l'enfer. Et ce que Aïcha avait chez elle, c'était un morceau de tissu, comme ce qu'on a utilisé, on utilise aujourd'hui, comme des rideaux, des choses comme ça. C'est comme un rideau qu'elle avait chez elle, sur lequel il y avait une image dessinée avec la main d'une créature ayant une âme. Et donc ça, c'est un dalil authentique, rapporté dans les deux authentiques. L'authentique de l'imam Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim, qui indiquent que, également, ce qui est fait sur une surface, l'image d'une créature ayant une âme, l'homme et les hommes et les animaux, c'est interdit. Taïb, il y en a qui disent que ça, c'est pas un façonnage d'image. Yani, quand tu le fais avec la main, d'accord. Ils disent, d'accord, on accepte que quand c'est fait avec la main. Comme ceux qui font des portraits, ou là, des choses comme ça. Là, si tu prends une photo avec un appareil photo, ou avec un téléphone, est-ce que ça rentre dans les photos interdites, et ça rentre dans tous ces hadiths que nous allons voir, et dans toutes ces menaces? Il y en a qui ont dit non. Parce que quand l'homme il fait avec sa propre main, là c'est lui qui a façonné. Mais quand il prend une photo avec un téléphone, c'est même plus la peine de dire aujourd'hui avec un appareil photo. Je suis encore un ancien. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, sauf des photographes professionnels. Lakin, s'il prend une photo avec un téléphone, il y en a qui ont dit ça, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Pourquoi? Parce que cette personne a tout simplement cliqué sur un bouton et ça a donné cette photo. Donc, il n'a pas façonné. Il n'a pas façonné. Donc, ce n'est pas interdit. La réponse des autres savants qui est la vue juste, ils disent, ça c'est faux. C'est lui qui a façonné. Car c'est celui qui a provoqué le façonnage de cette photo. Il est responsable car le résultat, c'est une photo interdite. Vous êtes d'accord? Ils ont dit non, le résultat est interdit. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait directement avec sa main. Ils leur ont dit, c'est lui qui l'a provoqué, avec un clic, avec un bouton. Et ils leur ont donné l'exemple de celui qui appuie. Ils leur ont dit, si tu tues quelqu'un avec un couteau, C'est un meurtre. Naam. Et si tu appuies sur un bouton, et le bouton d'un pistolet, et la balle, elle part. Est-ce que tu es considéré comme un meurtrier ou pas? Ils ont dit, naam, c'est un meurtrier. Ouais, il a provoqué, il a appuyé sur... il y a des pistolets aujourd'hui avec des boutons. Tu appuies sur un bouton. Tandis, c'est lui qui a provoqué ce meurtre, il est tenu responsable. De la même manière, celui qui a appuyé sur le téléphone, c'est lui qui a provoqué la photo. Donc, ça rentre dans les photos interdites. Et moi, je vous dis, mes frères, wallahi, s'il y avait 1%, comme quoi, la photo prise avec un appareil rentre dans toutes ces menaces qui sont mentionnées, s'il y avait 1% que ce soit dedans, il fallait le délaisser. S'il y avait 1%. Lakin aujourd'hui, on est à une époque où les gens sont tellement attachés à ces photos. Et vous allez comprendre Sarama. Sarama, qu'est-ce qu'il y a le Sarama en français? Sarama, l'islam, il est strict. Il y a une certaine rigueur par rapport à ce jugement en islam. Lakin, si tu comprends que la première forme de shirk qui est apparue sur terre est due à ce point, là, tu comprendras pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela d'une manière stricte. Yani, pourquoi il y a cette rigueur. Naam, salama, ils disent la rigueur. Pourquoi il y a cette rigueur dans le jugement? Car c'était ça la première cause de shirk sur terre. Et si tu vois l'attachement qu'ont les gens aujourd'hui aux photos, tu vas comprendre que cet attachement, il peut devenir tellement fort jusqu'à les vénérer, comme ça a été fait avant. Et cette législation, c'est la dernière des législations. Elle a fermé toutes les portes qui peuvent mener vers l'associationnisme. Elle a fermé toutes les portes qui peuvent mener vers l'associationnisme. Vous savez que dans les autres législations, c'était pas interdit de faire des statues. Et c'était pas interdit de faire des photos non plus. Dans beaucoup d'autres législations. Lakin, dans notre législation, la dernière et la plus parfaite et la plus complète des législations, c'est interdit de faire des photos, pas que ce soit des photos ayant une forme tridimensionnelle ou des photos bidimensionnelles sur un plan, sur une surface. Faites directement à la main ou par le biais d'un appareil photo. Ça, c'est le troisième cas. Donc, maintenant, on passe au quatrième cas. Ce sont les images ayant une âme. Les images de créatures ayant une âme. Ça, c'est interdit. C'est interdit de faire des images de créatures ayant une âme. Maintenant, les créatures n'ayant pas d'âme, dessiner un arbre, dessiner le soleil, dessiner une plante, et ainsi de suite. Les savants ont dit que cette dernière catégorie, on peut distinguer dedans deux types. Le premier, ce sont des créatures n'ayant pas de vie, mais qui ont une certaine croissance, qui grandissent, qui augmentent, comme les plantes. Et il y a d'autres catégories. La deuxième catégorie, c'est ces créatures n'ayant pas de vie, n'ayant pas d'âme, n'ayant pas d'âme, mais qui ne bougent pas, comme les montagnes. Et ainsi de suite. Par rapport à celles qui ne bougent pas, la quasi-totalité des savants disent que c'est autorisé. Dessiner une montagne, dessiner une colline, dessiner une maison, ils disent que c'est autorisé. Et par contre, par rapport aux choses, qui croient, dans laquelle il y a une certaine croissance, comme les plantes, comme les arbres, il y en a qui ont dit, ça, c'est pas autorisé. Et ça, c'est l'avis d'un des plus grands savants de l'Mufassirin, si ce n'est pas le plus grand savant parmi les Tabi'in, qui est Mujahid ibn Habr, ibn Jabr, rahimahullah, l'élève d'Ibn Abbas. Il a dit que ce n'est pas autorisé. Lakin, la majorité des savants disent que c'est autorisé. Et c'est ça la vie juste, wallahu a'lam. Donc, si on veut résumer, c'est autorisé de faire des images de créatures n'ayant pas d'âme. Et c'est interdit de faire des images de créatures ayant une âme, que ce soit en tridimension ou en bidimension. Ça, c'est le résumé de ce point par rapport à ce hadith. Ensuite, l'auteur a cité hadith Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète a dit « Ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah alladhina yudhahi'una bi khalqillah ». Donc, les gens qui auront le châtiment le plus douloureux le jour de la résurrection, c'est ceux qui créent comme Allah il crée. C'est-à-dire, il crée des choses, il crée ce que Allah crée à la base. Ce que Allah crée à la base. Et donc ce hadith, il est spécifié par la création ou le façonnage de créatures ayant une âme, comme nous l'avons vu. Créatures ayant une âme. Ensuite, il a cité hadith Ibn Abbas, dans lequel il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallam dire, « Kullu musawwirin fin nar, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. » Écoutez, ikhwa, le hadith, il fait très, très peur. Le Nabi sallam a dit, « Tout façonneur d'image est en enfer, pour chaque image qu'il a faite. » On lui assignera un être qui le punira en enfer. Ça, c'est une traduction selon la première compréhension de ce hadith. Allah va charger une créature de le châtier en enfer par les images qu'il aura façonnées dans le dunya. Et la deuxième compréhension, Allah le châtiera par ces mêmes images qu'il a façonnées, en insufflant en elle l'âme. Et Allah est capable de toute chose. Ces images qu'il a créées sans âme, Allah insufflera l'âme en elle et ça sera la cause de son châtiment en enfer. وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. Donc, il est rapporté du prophète sallam également, il a dit, celui qui a façonné une image dans la vie présente, on lui demandera d'y insuffler une âme. Il n'en fera rien. Donc, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Allah le chargera de faire une chose impossible afin que son châtiment dure encore plus longtemps. Et ça nous ramène à une question. Là, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, une question que nous avons dans la religion. Est-ce que Allah nous a chargé de quelque chose qui nous est impossible dans la religion? La réponse en résumé, non. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Yani, tout ce que Allah t'a de quoi Allah t'a chargé dans la religion, c'est des choses qui rentrent dans ta capacité en état normal. Là, qu'une si t'es malade ou des choses comme ça, Allah t'accorde un allègement supplémentaire. Tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Tu ne peux pas faire salade debout, tu la fais assis. Lakini, en ayant une excuse valable, comme la maladie, ou de craindre pour ta personne si tu es en état de guerre, ou là, des choses comme ça. Amma, pour le travail, tu dois faire la salade debout. Yani, ce n'est pas autorisé. Là, pourquoi ça me fait penser à certains frères qui disent, étant donné qu'il travaille, il ne peut pas faire salade debout, donc il va aller dans sa voiture, il l'a fait assis. Ça, c'est une salate invalide. Car la station debout est un pilier dans la salate. Et ne pas respecter un pilier dans la salate la rend invalide et caduque. Sauf quand il y a une excuse valable. Et Yahéhoua, rappelez-vous que ça, c'est des épreuves. Vous n'êtes pas les premiers à les traverser. Là, c'est des épreuves que traverse le croyant dans sa religion. Et si il fait preuve d'obéissance à Allah et de fermeté sur sa religion, Allah lui donnera les issues par la suite. Là, s'il faiblit, il cède, il continuera d'être éprouvé ainsi. Les gens qui ont été fermes par rapport... Allez, sache, Allah, il t'a créé pour l'adorer. Et ne crois pas qu'Allah va te négliger au niveau de rizq. Rizq, ce n'est pas un souci pour toi. Tu dois faire seulement les causes légiférées. Allah, il te donnera rizq. Allah, il le donne aux pigeons, aux serpents, aux mécréants. Et toi, le croyant qui obéit à Allah, il ne va pas te donner rizq. Donc, n'aie pas le souci de rizq. Fais les causes. Ne reste pas chez toi à dormir et t'attends le rizq qui va tomber du ciel. L'islam t'a invité à faire les causes. Lakin, ne fais pas les causes haram. Ne cède jamais sur ta religion. Ne cède jamais sur ta religion. Et surtout quand on parle de salat. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est salat en islam? C'est l'adoration la plus importante en pratique. Et la deuxième adoration la plus importante après l'unicité d'Allah. Donc, il n'y a pas de compromis par rapport à la salat. Je fais ma salat correctement comme il se doit. En étant debout, en ayant fait mes ablutions, et dans un endroit propre, et non pas dans des toilettes. Il ne faut pas céder sur ces choses-là. Et le kuffar, subhanallah, et ça je vous parle de l'expérience de plusieurs personnes. Kuffar, quand ils voient que tu es attaché à ta religion, ils te respectent plus que les autres. Taïb. Donc celui qui façonne une image, Allah lui ordonnera d'insuffler l'âme en elle. Il ne pourra point le faire. Et le dernier hadith qu'il a mentionné, hadith Abul Hayyaj, il a dit, Ali radiallahu anhu m'a envoyé, il m'a dit, Ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, veux-tu que je t'envoie pour accomplir la même mission dont le messager d'Allah m'a chargé? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé Ali radiallahu anhu avec cette même mission qu'il va confier à ce tabi'i qui n'est pas un sahabi. Il lui a dit, Allah tada'a suratan illa tamastaha, wa la qabran mushrifan illa sawaitah. Il lui a dit, ne laisse aucune image sans l'effacer. Et ne laisse aucune tombe distinguée des autres tombes sans l'aplatir. Yani, le mushrif, c'est pas seulement la tombe qui est surélevée. La tombe surélevée, c'est une catégorie de la tombe qui est distinguée des autres tombes. En islam, on ne doit pas distinguer les tombes et favoriser les riches avec des tombes, avec des carrelages, ou là, des murs, ou là, certaines tombes. Yani, tu as l'impression d'être dans un palais. Parce que celui qui vit dans un bidonville, il préfère vivre dans la tombe de certains riches. En islam, tout le monde doit avoir la même tombe. Là, par contre, à l'intérieur de la tombe, ce n'est pas pareil. Il y en a pour qui l'intérieur de la tombe, c'est le paradis. Il y en a pour qui c'est le début de l'enfer. Amma, l'extérieur, ça n'a pas de valeur. C'est un gaspillage d'argent et c'est un péché de distinguer les tombes, notamment en les en la faisant surélever. Des fois, ça ne veut pas sortir. Naam. Naam. Le hadith, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah. Donc Ali a dit à Abul Hayyaj, veux-tu que je t'envoie avec la même mission que m'a confié le messager d'Allah? Que tu ne laisses pas une image sans l'effacer. Et c'est ça qui nous concerne ici dans ce chapitre. D'effacer les images ayant une âme et l'effacer, c'est ou bien en l'effaçant totalement ou en effaçant la tête avec le visage. Car une image sans tête et visage, ce n'est plus une image. Ou là, au minimum, le visage. Au minimum, le visage. On ne voit plus les yeux, le nez, la bouche. Les traits du visage, il faut qu'ils disparaissent. Suite à cela, ce n'est plus une image. Et là, s'il y a le visage, c'est l'image, comme ça a été rapporté de Ibn Abbas. Le visage, c'est l'image. Il n'y a plus de visage, il n'y a plus d'image. Il y en a qui exigent également de retirer la tête entièrement. Taïb. Et d'aplatir les tombes et de ne point les distinguer. Il lui a dit, et de ne pas laisser une tombe distincte des autres, sans l'aplatir. Si elle est surélevée, tu dois l'aplatir. Vous savez que la tombe ne doit pas dépasser, ne doit pas être surélevée de plus d'un empan du sol. Chibre. Et on ne doit pas mettre du carrelage ou la... C'est la terre qu'on a creusée, qu'on a sortie de la tombe même, qu'on doit remettre. Et s'il y a besoin de plus, on met plus, un petit peu plus de terre pour protéger la tombe. Vous savez, en islam, on a une manière de faire les tombes où elles sont protégées. Des animaux féroces qui peuvent venir pour sortir le cadavre. Malheureusement, il n'y a pas le temps pour expliquer ça. Lakin, en islam, on a des techniques pour s'assurer que personne ne peut arriver au corps. Amma, de surélever la tombe, ou là de mettre de la faïence, ou là des murs, ou là de l'écriture, tout ça n'est pas autorisé en islam. Pour distinguer la tombe d'une personne de ta famille, il suffit de mettre une pierre ou là, avec laquelle tu vas la distinguer. Nabi a interdit également d'écrire sur les tombes. Un tel marhoum. Allah alam, est-ce que c'est le marhoum ou pas le marhoum? On espère qu'il soit le marhoum. À qui Allah a fait miséricorde, mais on ne sait pas. Taïb, lakin, d'une manière générale, c'est interdit d'écrire sur les tombes, quoi que ce soit. Amma, le fait de vouloir distinguer la tombe d'un proche, afin de lui rendre visite, tout ça, ça c'est légiféré, mais sans écriture, avec une pierre qui distingue la tombe, ou là, il y a plusieurs moyens qui sont autorisés, comme ce qui est fait en Arabie Saoudite. Si vous visitez le Baqi'a, à côté de la mosquée du prophète, vous n'allez pas voir une seule tombe sur laquelle il y a une écriture. Et vous n'allez pas voir une seule tombe qui est surélevée de la terre de plus d'un empan. Et allez, ils appliquent la sunna, alhamdoulilah, par rapport à ça. Et pourquoi le Nabi a mentionné les deux ensemble? Les images et les tombes, car ce sont les deux plus grosses causes de fitan. Et d'égarement. Regardez, il les a mentionnés ensemble. Et il y a la tentation des images et la tentation des tombes. Vous savez que beaucoup de gens tombent dans le shirk à cause de leur exagération au sujet des tombes. Ils invoquent les morts. Si un tel, il lui donne, Ada, il lui donne les enfants, Ada, il lui donne la santé, Ada, il lui donne le travail, la richesse, le khidma. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé à Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'est Hada, il donne, Hada, il donne, Hada, il donne. Quand est-ce qu'on revient à Allah? Jamais. Hada wa shirk. Qui n'existait. Ces formes de shirk n'étaient pas aussi accentuées chez le kuffar avant l'islam que, malheureusement, à ces époques où les gens se sont éloignés de la science. Au point où on peut voir des formes de shirk dans la seigneurie. Il y a des gens qui croient que des soi-disant alliés d'Allah créent. Il peut créer. Il y en a qui croient, parmi les soufis, qui croient que leur shaykh, il peut les faire sortir de l'enfer, malgré la volonté d'Allah. Peut-être ça va vous choquer. Voilà, ils croient à ces choses-là. Il y en a qui sont arrivés à un degré d'égarement que peut-être n'avaient pas Abu Jahl et Abu Lahab. C'est pour ça qu'il est très important, mes frères, et avec ça on va terminer, c'est très important d'étudier Tawhid et de connaître Shirk afin de ne pas tomber dedans, de connaître Tawhid pour le pratiquer et pour adorer Allah avec, et de connaître Shirk afin de ne pas tomber dedans. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.